tombé dans cette espèce de rush de se réfugier chez les amis des amis ou les amis de la famille pour trouver un stage. Quand moi j'étais à l'UNIF, j'étais le premier à pas comprendre ou à négliger la culture d'entreprise. Je pensais que c'était un terme un peu bateau. Je pense qu'un graduate programme, c'est vraiment un réseau interne à l'entreprise. C'est une carte de visite. Il y a encore cette culture de la première entreprise, on y va, on reste 2-3 ans et puis on s'en va quoi.
Bonjour et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Hello à tous, c'est Laura et bienvenue pour ce nouvel épisode de Best Regards où on va parler des graduates programmes. Graduate programme, traineeship, rotation programme, ils portent tous quasiment le même nom, mais in fine, qu'est-ce que ça veut dire ? Commencer sa carrière par un graduate programme, ça permet d'avoir plusieurs positions avant de choisir le job qui nous convient le mieux. C'est assez intéressant, c'est pourquoi on a voulu aborder ce sujet aujourd'hui sur Best Regards. Pour ce faire, j'ai eu le plaisir de recevoir Antoine, qui a fait le Global Management Traineeship chez AB InBev, après avoir été diplômé du SEMS en 2018. Dans cet épisode, j'ai abordé avec lui son parcours au sein d'AB InBev, qui a commencé par un stage déniché un peu par hasard à Prague. On a parlé de son cheminement vers le graduate programme, du processus pour prétendre à ce traineeship, ainsi que les opportunités de voyage qui vont avec, évidemment, en temps hors Covid. Antoine m'a ensuite expliqué en quoi consistait ce programme et quel impact il avait eu sur son choix de job actuel. Si les traineeships vous intéressent, je crois que cette capsule vous plaira, en tout cas moi j'ai adoré la tournée. Après l'épisode, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour encore plus de contenu. Hello Antoine et bienvenue sur Best Regards.
Salut, merci de me recevoir. Je pense que c'est une super opportunité de pouvoir parler et donner des conseils à des jeunes qui vont sortir de l'UNIF d'ici 6 mois ou un an. Et moi, j'aurais bien aimé avoir un concept comme ça quand j'étais encore à l'UNIF en première ou en deuxième master. Donc, c'est top. Merci à vous.
Avec plaisir. Alors Antoine, tu as commencé chez AB InBev par un stage à Prague que tu as effectué dans le cadre de tes études. Et une fois diplômé, tu as décidé de poursuivre dans cette voie puisque tu as intégré le graduate programme d'AB InBev. Peux-tu nous en dire plus sur ce parcours ?
Oui, alors si je prends chronologiquement mon parcours, donc j'étais d'abord à l'Université catholique de Louvain en bachelier, puis à la LSM en master. Et à la LSM, j'ai fait le master SEMS. Dans les 2 ans de master, on est obligé de passer au moins 1 an sur les 2 à l'étranger. Je pense que ça, c'est super intéressant de nos jours parce que les entreprises regardent de plus en plus les expériences personnelles que maintenant les notes ou les cours qu'on a eus. Je pense qu'ils recherchent des parcours et des profils atypiques et qui collent bien à leur culture d'entreprise. Maintenant, si on parle de mon stage, donc oui, moi, effectivement, j'ai fait mon stage chez AB InBev à Prague. J'y suis rentré, pour être tout à fait honnête, parce qu'un ami de ma famille y travaillait. Donc, j'ai été un peu pistonné. Et ça, je vais dire que c'est un peu ce qu'il faut éviter aussi quand on recherche un stage. Et je sais que beaucoup de mes amis à l'époque l'ont fait et je pense que c'est assez courant et c'est tout à fait normal. Tomber dans cette espèce de rush de se réfugier chez les amis, des amis ou les amis de la famille pour trouver un stage parce qu'il y a cette pression de... On a 6 mois pour trouver un stage, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. Je sais qu'il y a une grosse pression de l'université qui pousse pour qu'on le trouve assez vite, etc. Et donc voilà, je pense que si je pouvais donner un premier conseil dans ce podcast, c'est d'éviter cette espèce de rush et de furie pour trouver un stage et d'accepter tout et n'importe quoi. Ce n'était pas mon cas. Donc moi, AB InBev, c'était quand même une entreprise qui me plaisait. Et voilà, mais maintenant, en ce qui concerne le stage en soi... Pour être tout à fait honnête, voilà, j'ai postulé un stage, j'ai accepté un stage sans vraiment savoir ce que j'allais faire. Donc ça, je pense que c'est un premier conseil que je donnerais, c'est le stage. Oui, je pense qu'il y a 2 choses à regarder. Il y a 1, l'entreprise dans laquelle vous allez, est-ce qu'elle vous intéresse ? Est-ce que potentiellement pour un premier job après vos études, ça va vous intéresser ? Et 2e chose, c'est qu'est-ce que vous allez en retirer en termes de soit des hard skills, améliorer votre Excel, voilà, des choses qui vous intéressent, ou alors des soft skills, que ce soit le réseau, voilà, people management, project management. Je pense que ça, c'est des choses qu'il faut regarder. Maintenant, moi, mon stage, je ne le regrette pas du tout. C'est ce qui m'a fait, après, postuler chez AB InBev. J'ai vraiment adhéré à la culture. Je pense qu'à Prague, c'est aussi une super ville pour tout ce qui est stage, parce qu'il y a plein de grosses entreprises. Il y a beaucoup de jeunes qui vont là-bas pour des stages ou des premiers boulots. C'est hyper dynamique. Donc moi, j'étais très content d'aller là-bas. Maintenant, la seule partie que je regrette un peu, c'est les hard skills que j'ai pas vraiment ciblé. Et moi, j'avoue que j'ai un peu cédé à ce rush du stage.
Oui, je pense que tu soulèves un point intéressant qui est que trop d'étudiants, à mon avis, cherchent un stage pour avoir un stage et pour avoir peut-être une ligne sur leur CV sans chercher plus loin, d'avoir un stage dans une boîte qui pourrait être intéressantes pour eux plus tard. Et ça, je pense que c'est intéressant ce que tu viens de soulever. Et donc, pour poursuivre sur ce sujet-là, est-ce que tu peux nous expliquer donc, ce qu'on entend par gradué de programme ? Donc, c'est un terme qu'on entend assez souvent, mais de quoi s'agit-il exactement, en tout cas dans le cas d'AB InBev ?
Oui, donc voilà, je pense que gradué de programme, ça dépend un peu des entreprises. Je pense qu'il y a pas mal de maintenant de grosses entreprises qui ont développé un programme interne. Je pense qu'un gradué de programme, le point commun en toutes les entreprises, c'est que c'est vraiment un réseau interne à l'entreprise. C'est une carte de visite. Les gens qui passent par là, ça reste des alumni, comme dans une université. C'est quelque chose qui est hyper intéressant pour des gens qui veulent développer une carrière vraiment assez longue, je vais dire, dans une entreprise. Ça permet aussi aux entreprises elles-mêmes de garder des jeunes plus longtemps. Je pense que c'est de moins en moins le cas, mais en tout cas, il y a encore cette culture de la première entreprise, on y va, on reste 2-3 ans, et puis on s'en va, quoi. Et je pense que les gradués de programme, c'est justement fait pour inciter les jeunes à adhérer à la culture, développer des compétences, sentir qu'il y a de l'intérêt pour nos carrières et qu'on se préoccupe de notre développement. Et ça, c'est hyper important. Donc ça, je pense que c'est une top opportunité. Et après, la deuxième chose aussi, c'est que les gradués de programme, pour moi, c'est vraiment une transition qui est naturelle et parfaite entre la fin de l'université et le premier rôle. Parce que, en tout cas, c'était mon cas. J'avais pris pas mal de cours option finance quand j'étais en master. J'ai toujours dit que je voulais évoluer dans la finance. Mais on m'a jamais ouvert les yeux sur la supply chain, sur le marketing. Donc voilà, je me bridais moi-même en fait, je me fermais des portes. Dans toutes les entreprises, je pense que les programmes ont pour vocation de donner une vue générale de toute l'entreprise. Donc, par exemple, typiquement, si je raconte moi mon gradué de programme chez AB InBev, le Global Management Traineeship, GMT, c'est déjà très international. Donc la première semaine, on commence par une semaine d'introduction aux États-Unis avec tous les GMT du monde entier. On a des conférences des vice-présidents globaux, du CEO, etc. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. On se sent très privilégié. Il y a un mélange de cultures qui est top. Après, les 4 premiers mois, on a des présentations de tous les départements qui existent chez AB InBev. On a des présentations des VP Marketing Europe, du VP Supply Chain. Donc, ça donne vraiment une helicopter view qui est top et que je pense que sans faire un gradué de programme, on n'a pas toujours l'opportunité, surtout dans des boîtes qui sont énormes, de connaître tous les jobs ou en tout cas de savoir ce qui fait quoi. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et après, la dernière partie du programme, les 6 derniers mois, là, c'est vraiment des projets concrets. Pas encore un vrai travail, mais ça permet au moins de vraiment savoir si tu aimes ou pas un département. Donc moi, par exemple, j'ai eu 2 projets. J'ai eu un projet qui était plus commercial, marketing. C'était le lancement de Budweiser en France. Et voilà, c'était hyper intéressant. Donc déjà, j'étais dans un autre pays. J'étais en France. J'ai dû apprendre la culture de la bière qui est différente de la culture belge où chez nous, c'est assez présent. Donc ça, c'était hyper intéressant et j'ai beaucoup plus accroché avec ce côté-là. Et mon deuxième projet était tout aussi intéressant, mais c'était complètement différent. C'était là, gérer un peu et revoir la manière dont on gère le portefeuille des SKU qu'on a dans la zone Europe. Donc, 2 projets qui ont été complètement différents, qui m'ont ouvert les yeux. Et au final, voilà, je pense que j'ai eu beaucoup de visibilité sur les possibilités d'AB InBev. Et c'est une chose que j'aurais pas eu l'occasion d'avoir si j'avais pas fait un gradué de programme.
En tout cas, ça a l'air très, très chouette. Tu donnes vraiment envie d'en savoir plus sur ce programme. Ça a l'air très complet et varié. Donc, ça donne envie. Et je suis sûre que tu as attisé la curiosité de nos auditeurs. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais expliquer comment s'est déroulé ton processus de sélection pour intégrer ce traineeship ?
Je pense que ça, par contre, je veux dire, c'est un peu le côté difficile des traineeships. C'est que peu importe la boîte, je pense que le processus de sélection est assez exigeant. Mais pour le traineeship d'AB InBev, il y a 7 étapes de sélection. Il y a d'abord des tests en ligne sur des tests culture fit. Donc, c'est vraiment pour savoir si votre profil est compatible avec la culture de l'entreprise. Je pense que ça aussi, si je peux donner un conseil aux auditeurs, c'est que quand moi j'étais à l'UNIF, j'étais le premier à pas comprendre ou à négliger la culture d'entreprise. Je pensais que c'était un terme un peu bateau. Je me rends compte maintenant en travaillant chez AB InBev et avec mes amis qui travaillent dans d'autres boîtes qui sont très différentes. Chaque entreprise a ses particularités. Et savoir si le mood ou si l'état d'esprit vous correspond. Parce que si vous êtes dans une entreprise qui est beaucoup plus réfléchie et que vous êtes beaucoup plus risk-taker et que vous foncez beaucoup plus, je pense qu'à un moment, il va y avoir un décalage. Et donc, ça, c'est quelque chose qui teste vraiment, en tout cas chez AB InBev, dans le processus de recrutement. Après, il y a une étape un peu plus sérieuse, c'est le test de logique. C'est assez courant dans toutes les boîtes, c'est assez straightforward. Après, si vous passez encore cette épreuve-là, il y a une interview en ligne. Personne ne vous interview, mais vous avez des questions qui défilent. Vous avez 10 secondes pour lire la question et 1 minute pour y répondre. Ça va très très vite. Moi, si on m'avait dit ça quand j'étais en master, encore une fois, j'aurais dit « Ouais, mais ils disent n'importe quoi, c'est très général, c'est très générique. » Mais bien connaître son CV, bien connaître ses expériences. L'avant-dernière épreuve, c'est un assessment center, comme on appelle ça chez Abinbev. Là, vous êtes amené à vous rendre sur place dans notre headquarter à Leuven. Et là, vous avez toute une journée, vous êtes avec une trentaine d'autres postulants. Et là, vous avez une interview en one-to-one avec un assesseur. Donc ça, c'est des questions assez génériques qui sont assez semblables dans toutes les entreprises. Et puis après, la deuxième partie de la journée, vous avez des business games en groupe où là, vraiment, on va juger votre capacité à interagir en groupe. Voilà, vous allez devoir montrer que vous êtes quelqu'un qui sait prendre des décisions sans les imposer ou qui a cette espèce de leadership naturel qui fait que les autres vous suivent. Je pense que c'est vraiment ce qu'on teste en particulier chez Abinbev. Et alors, la dernière épreuve, vous passez devant un jury à 4. Et là, c'est des questions voilà, assez tac au tac. Très difficile de se préparer, si ce n'est encore une fois de bien maîtriser l'entreprise, maîtriser un peu l'industrie. C'est des questions plus business case orientées. Je vais pas tout dévoiler, c'est pour les gens qui veulent postuler chez Abinbev. Mais voilà, c'est assez intense. Ça dure en moins un mois et demi. C'est pas facile, mais ça en vaut la peine.
Bah oui, bah en tout cas, ça a l'air long et intense, comme tu dis, mais ça doit être assez intéressant. On doit apprendre aussi beaucoup de choses dans ce genre de processus de recrutement. Et je trouve que tu as bien fait de faire un point sur tout ce qui est culture d'entreprise, parce que, comme tu disais, c'est quelque chose qui est fort négligé par les étudiants, alors que, comme tu dis, ça fait toute la différence, je pense, dans un job après, d'être dans une entreprise où on se sent bien et où on sent qu'on fit avec les autres et qu'on ait les mêmes valeurs et la même manière de travailler. Je trouvais ça très intéressant. Et alors aussi, une autre petite question en plus par rapport à ce traineeship. Abinbev est basé à Leuven. Est-ce qu'on doit absolument être bilingue ou trilingue pour rentrer dans ce genre de traineeship?
Oui, non, c'est une très bonne question. Alors non. Donc moi, je suis bilingue, en anglais. Malheureusement, je n'ai pas la connaissance du néerlandais, je le regrette. Je pense que voilà, chez Abinbev, on teste la solidité des profils et vraiment l'alignement avec notre culture interne. Ça, c'est la première chose. Les langues ne sont pas nécessaires, mais les langues, voilà, je pense que ce serait mentir que de dire que ce n'est pas un plus. Mais voilà, ça, pour le moment, ça ne m'a pas fermé de porte en interne parce que c'est une grosse boîte, c'est une boîte internationale. Et donc, l'anglais, c'est quand même la langue de base. Maintenant, je pense qu'il y a quand même certains postes où le néerlandais va me manquer, mais je peux toujours le développer par ailleurs. Voilà.
Oui, c'est ça. OK. À la fin de ce traineeship, tu dois choisir donc, vers quelle fonction tu souhaites t'orienter. Est-ce que ce programme t'a aidé à te faire une idée plus précise des différents postes proposés par Abinbev et leur contenu? J'imagine que cette expérience d'un an t'a aidé dans ton choix d'emploi actuel.
Oui, tout à fait. Donc voilà, comme je l'ai dit, ça dure un an. Pendant un an, on a pas mal de présentations. Je pense que tous les départements possibles et imaginables d'Abinbev nous ont présenté leur équipe, ce qu'ils faisaient au quotidien, la finalité de leur travail. Ça aide définitivement. Donc voilà, moi par exemple, après mon traineeship, j'ai voulu me diriger plutôt vers le côté finance. Donc moi, je me suis dirigé là-dedans. Pourquoi? Parce que pendant mon année, j'ai eu une présentation de mon ex-manager à l'époque. Ça a tout de suite super bien accroché. Encore une fois, l'avantage de ces gradués de programme, c'est que ce sont des gens qui sont assez haut dans la boîte, qui viennent nous présenter leur équipe. Et après, surtout, on a l'occasion de discuter avec eux. Donc ils viennent présenter pendant une heure et puis on a une demi-heure de Q&A. Donc ce sont des gens qui ont déjà un agenda très chargé, qui libèrent ce temps-là pour nous. Et ça nous permet vraiment de nous faire une idée. La deuxième chose, c'est qu'après, comme je l'ai dit, on a deux projets qui sont de 10-12 semaines. Donc, est-ce qu'on veut du supply? Est-ce qu'on veut du marketing? Est-ce qu'on veut de la finance? Les projets, je pense que voilà, ça aide. Et la troisième chose, c'est que les traineeships, en tout cas chez Abinbev, Global Management Traineeship, ben comme ça dit bien, c'est global. On est amené à beaucoup voyager. Ça nous permet d'être flexible en termes de job, où est-ce qu'on veut postuler. Voilà, j'étais convaincu par les challenges qu'Abinbev avait en Belgique. Je pense que chaque pays a ses challenges différents. Il y a des pays, par exemple, où la boîte est une grande part de marché. Là, il y a des challenges différents que des pays où on est un peu outsider par rapport à nos compétiteurs. Donc, les trois choses, un, les présentations, deux, les projets et trois, la visibilité, je vais dire, entre les pays, ça m'a permis de me décider pour mon premier poste, quoi.
Du coup, tu viens un peu de l'aborder, mais donc à la fin de ton traineeship, tu as décidé de t'orienter plus vers le département finance, puisque depuis mars 2020, tu es financial planning et business cycle analyst pour Abinbev. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi ça consiste? Quel est ton job au day-to-day?
Oui, donc mon job au day-to-day, en fait, c'est très cyclique, moi. J'ai un métier qui est très cyclique et moi, c'est quelque chose qui correspond bien à ma personnalité. Je pense que je m'étais aussi habitué comme ça à l'université de travailler en cycle blocus. Et là, c'est un cycle qui est mensuel pour moi. La première partie du mois, les deux premières semaines, je vais vraiment m'occuper de la fermeture des livres comptables du mois précédent. Et après, je vais rapporter ces résultats dans une présentation au VP Supply de la zone Europe. Donc moi, je m'occupe des brasseries en fait du Benelux et de leur performance financière. Et donc voilà, je lui présente les points négatifs, ce qu'on devrait améliorer, de quel côté, donc en termes de people, en termes de matières premières, etc. Donc voilà, je lui présente là où on a eu des bons résultats, des mauvais résultats. Et ce qui compte, c'est les décisions qu'on va en tirer. Donc ça, c'est vraiment la première partie du mois. Ça me prend assez de temps et c'est assez intense parce que voilà, on a des deadlines qui sont inamovibles. Donc les deadlines, qu'on travaille 5, 6 heures ou qu'on prenne une semaine de congé, elles sont là. Donc il faut que le travail soit fait. Moi, c'est quelque chose qui me correspond bien parce que c'est un moment d'adrénaline très intense. Et alors, la deuxième partie du mois, elle est beaucoup plus, je vais dire, orientée projet. Par exemple, je vais faire des projets, beaucoup de business case sur voilà, quelle bière on devrait produire, dans quelle brasserie, et pourquoi, qu'est-ce que ça rapporte financièrement. Ou alors, je vais dire, je vais aussi m'occuper de tout ce qui est KPI reporting. Donc voilà, on a des KPI qui sont mauvais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les améliorer, faire des benchmarks avec les autres zones, avec les autres pays. Donc ça, c'est cyclique, tous les mois, ça se répète. Et alors, il y a des mois où on va aussi travailler sur tout ce qui est vraiment très stratégique, donc le one-year plan, le three-year plan, quel avenir on voit pour nos brasseries au Benelux à 1 an, à 3 ans, à 5 ans. Et ça, c'est hyper intéressant. Je pense qu'AB InBev est une boîte qui est très portée sur la finance. Je pense que finance est dans nos core business et dans nos core compétences, je vais dire. Moi, j'apprends tous les jours. Ça fait maintenant 1 an et demi que je suis dans mon rôle et je continue d'apprendre plein de choses. Que ce soit en finance, que ce soit en pure Excel, que ce soit en stakeholder management, parce que par définition, en finance, on est amené à évoluer avec des gens qui sont beaucoup plus haut gradés que nous. Donc ça, c'est hyper intéressant. On a une vue sur la manière dont ils réfléchissent, la manière dont ils prennent les décisions, ce qui compte pour l'entreprise. Donc je pense que c'est un job qui me correspond bien à ma personnalité dans le sens où c'est très cyclique, ça fonctionne avec de l'adrénaline et moi, c'est ce qui me drive. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'apprend beaucoup de choses en termes de stratégie, en termes de long terme et en termes de connaissance de la boîte fondamentale.
Oui, mais ça a l'air très très intéressant en tout cas. On conclut toujours nos épisodes avec un conseil pour nos éditeurs. Quel est le tien ?
Moi, si je pouvais donner 3 conseils, et je vais commencer par quelque chose dont j'ai beaucoup parlé pendant le podcast, mais c'est vraiment la culture d'entreprise. Pour moi, c'est hyper important. Parler à des gens qui sont dans la boîte, demander un peu des exemples concrets qui vont vous faire comprendre que votre personnalité va matcher complètement avec la boîte. Je pense que voilà, si vous êtes quelqu'un de très entrepreneur et que vous allez dans une boîte où il y a des gros processus en place et où c'est une grosse machine complexe à bouger, vous n'allez pas être heureux. Si vous êtes quelqu'un qui est hyper spontané et que vous allez dans une entreprise qui met beaucoup de temps à prendre des décisions, pareil, ça va vous frustrer, vous n'allez pas être heureux, même si votre job est hyper intéressant. Je pense que ça va vous bloquer. Donc, la culture, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, et ça, je pense que voilà, j'ai peut-être pas la légitimité pour le faire, c'est d'essayer de pas céder à la pression. Donc, que ce soit pour le stage, que ce soit pour trouver le premier boulot, il y a beaucoup de pression. Il y a une pression de l'UNIF, il y a une pression des potes autour de vous, et il y a une pression de la famille. Voilà, je pense que il faut essayer de regarder ce que vous voulez pour vous-même. Il faut écouter les conseils, mais il faut vraiment savoir au fond de vous ce que vous voulez. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Et mon troisième conseil, et ça, c'est vraiment plus porté, je vais dire, sur les traineeships en soi. Je pense, dans n'importe quelle boîte, on a une énorme visibilité. On est vraiment surveillé, on est chouchouté, on s'occupe de nous. Donc, on est vraiment dans une bulle. On a ce sentiment qu'on est presque de supériorité par rapport à un employé normal, je vais dire. Voilà, il ne faut pas se dire que parce qu'on est dans un gradué de programme, on est déjà tout en haut. Je pense qu'il faut rester bien les pieds sur terre. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont cette espèce de désillusion entre le moment où ils terminent leur gradué de programme et leur premier vrai travail. On redescend tout en bas de l'échelle et c'est tout à fait normal. Mais on a encore pas mal de chemin à faire. Et aller là où on peut se développer, où on peut apporter quelque chose à la boîte, c'est quelque chose que je ferai.
Ok, bah, c'est noté, c'est très intéressant. Mais merci beaucoup en tout cas pour tout le temps et pour ce podcast. Je pense que c'était très intéressant et à bientôt.
Ouais, merci beaucoup, à bientôt.
Merci d'être resté avec nous jusqu'ici, on espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager notre contenu et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, ce qui nous aidera à nous faire connaître auprès d'autres jeunes ou futurs diplômés. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux pour être tenu au courant des prochains épisodes. Et d'ici là, à la semaine prochaine !